Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
J'adore. Bonjour et bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, deux femmes qui vont vraiment vous inspirer. Je suis ravie d'accueillir Céline Laborie et Edwige Geoffroy qui ont créé Tyla's Music is Yours. Bonjour Edwige, bonjour Céline.
Bonjour.
Alors, chers auditeurs, nous avons là à peu près 30 minutes, on va dire, d'énergie. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les deux personnes que j'ai aujourd'hui, vous allez voir, elles ont un parcours quand même assez atypique, inspirant. Et les merveilleuses ambassadrices de tout ce qui est art lyrique et classique. Alors, ce qui était très, très étonnant, c'est la nouvelle génération. Là, je vais direct sur le sujet toutes les deux. Vous allez vous présenter chacune, ça sera super. Mais c'est quand même un univers très exigeant. Moi, je me souviens, là-dessus, ça a été effectivement... il y avait cet univers classique. C'était quand même dans un certain cycle, on va dire ça comme ça. Et on ne voulait pas tous y aller. Et vous, vous avez réussi à mettre une magie dans cet univers qui est quand même assez incroyable. Alors, je ne sais pas laquelle des deux se présente et comment vous êtes allée sur Tyla, mais c'est surtout tout ce petit parcours magique que vous avez eu.
Alors, je vais commencer.
Pas de problème.
Moi, Céline, je suis chanteuse lyrique, donc chanteuse d'opéra. Parce que le lyrique, souvent, c'est vague, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est de l'opéra, en gros, du classique. J'ai 37 ans. Voilà, je pense que c'est important de dire nos âges. Une nouvelle génération, c'est gentil de dire ça.
Oh, mais chers auditeurs, parce qu'ils sont aussi bien à Toulouse, à Auch. Non, non, 36, c'est la nouvelle génération, c'est vrai. Pour moi, c'est 25 ans, c'est vrai. Mais 35 aussi, vous êtes pour moi la relève, ouais.
Oui.
Alors, ouais. Oui, avec plein de, justement, de talents. Donc, je vous en prie, continuez. Non, non, au contraire, c'est très bien.
Donc, en deux mots, vous voulez que je me présente rapidement.
C'est vraiment votre histoire dynamique de ces 30 minutes à toutes les deux, au contraire.
Alors, j'ai démarré le chant, j'avais 7 ans, à l'étranger. Alors, je n'ai pas fait du classique tout de suite. Moi, je suis passée par plein d'étapes très différentes. J'ai fait beaucoup de variétés, du jazz. Le classique, je ne connaissais pas encore. Mmh. Et j'ai découvert le classique à l'âge de 18 ans, en rentrant en France, quand j'ai dit à papa et maman, bon, je veux vraiment faire mon métier. Qu'est-ce que je peux faire comme étude pour pouvoir vraiment faire mon métier? Et puis là, on m'a dit, il faudrait faire le conservatoire. Conservatoire, je sais pas ce que c'est. OK. Pour moi, c'était une école de musique, quoi. Voilà, mais on faisait du Broadway, on faisait de la comédie musicale et absolument pas de l'opéra. Je ne savais pas ce que c'était.
Ah oui, c'est à l'opposé, là.
Ah oui, je suis vraiment loin.
D'accord.
Et puis, j'ai été très bien conseillée par un magasin de musique à Toulouse pour passer l'audition d'entrée, pour choisir mon morceau. Et puis, j'ai chanté ce morceau et j'ai été prise. J'ai été sélectionnée. Et là, je suis tombée amoureuse du classique. Ça a été vraiment une découverte pour moi, mais je me suis dit, en fait, c'est encore mieux que tout le reste. C'est du théâtre chanté. Moi, j'adore le théâtre, interpréter des personnages. Et alors là, de chanter. Puis en plus, c'est tellement varié. Le lyrique et l'opéra, ça démarre au 15e siècle et jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, du coup, c'est très riche, de langues différentes. Enfin, voilà. Et depuis, donc, du coup, j'en fais mon métier. J'en fais mon métier depuis un peu moins de 10 ans aujourd'hui. Ça met du temps. Ça met beaucoup de temps parce que c'est des années d'études.
Mais c'est pour ça que je suis très étonnée même que vous soyez allée sur le classique parce que c'est exigeant, il y a une rigueur. Vous le démocratisez, oui, parce qu'on l'a mis quand même sur un côté un peu élitiste, on va dire. Mais vous y étiez séduite.
Ouais.
Alors que c'était jazz, Broadway, tout cet ensemble qui est un peu à l'opposé, c'est effectivement très étonnant.
Après, je pense que toute discipline est exigeante dans tous les cas. C'est pas la même exigence, mais c'est sûr que je pense que tout ce qui est variété, pop, etc., c'est encore plus difficile dans la concurrence, en fait, surtout. Il faut vraiment se démarquer dans le classique aussi, mais dans le classique, il y a une exigence technique qui est clairement là. Et donc, on met des années avant de former une voix. Déjà, on chante rarement avant l'âge de 18 ans, parce que la voix n'est pas encore suffisamment mature de toute façon. Et puis à partir de 18 ans, voilà, on met du temps, il faut trouver un bon professeur de chant, il faut des années avant de se former réellement. Et de toute façon, on continue, même encore moi aujourd'hui, je continue à me former. Mm-hmm. J'ai toujours mon professeur de chant, des coachs, je vais voir des coachs régulièrement pour pouvoir, si on peut dire, remettre la voix dans le bon rail et de temps en temps me dire « Attends là Céline, t'as pas bien fait quelque chose, là il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. » Voilà, on a constamment besoin d'un coach en fait. C'est comme on se compare souvent à un athlète de haut niveau. C'est exactement la même chose. On a besoin de quelqu'un qui nous suit régulièrement.
Ah, j'aime bien ce comparatif.
Mais c'est vraiment
donc
ça.
C'est
parce
un marathon de la voix.
C'est un marathon.
Quoi,
c'est tout le temps un marathon. C'est un sport complet. Quand on est sur scène, qu'on soit instrumentiste ou chanteur, on reste déjà longtemps sur scène. Hein. Un opéra, ça dure quand même minimum 2h30. Donc, il faut avoir une énergie de A à Z. Mais même avant le démarrage, il faut avoir l'énergie parce qu'il faut se chauffer avant, etc. Et c'est tellement d'investissement physique aussi. On chante clairement avec notre corps. Donc, on a une préparation physique et mentale à chaque fois, comme un sportif de haut niveau, en fait.
Et là, justement, alors Edwige, parce que vous, c'est plutôt piano.
Alors, moi, oui, c'est pianiste.
Est-ce que là, vous, le côté... Alors, vous avez bien évidemment expliqué, mais est-ce que cette exigence, vous la ressentez? Parce que là, c'est plus dans, quelque part dans le mouvement, on va dire ça, quelque part au niveau du corps, la respiration, etc. Vous, de votre côté?
Il y a la même chose. On ne chante pas forcément avec la voix, mais on chante avec ses doigts et avec son corps. C'est pareil. Et ça demande une exigence, technique d'un entraînement de l'endurance. C'est un travail de tous les jours, un travail d'endurance comme un sportif de haut niveau où pour pouvoir monter une œuvre jusqu'au bout, ben, il faut la travailler. Il y a tout un travail aussi mental parce que quand on est sur scène, ça peut être une performance malgré tout, même si c'est du sentiment, de l'émotion. Il y a la performance quand même qui est derrière parce qu'il faut faire une heure de programme. Être à l'écoute, attentif, qu'on joue seul ou qu'on accompagne un chanteur ou un chœur ou un instrumentiste.
Et comment vous êtes arrivé vous-même, justement?
Alors, de mon côté, on va dire que j'ai 36 ans encore. Je suis plus jeune que Céline.
Bon, dans 2 mois, elle a 37 ans.
Happy birthday!
Non, moi, j'ai...
Je viens de les faire.
Moi, je ne les ai pas encore fait. Donc, voilà, la jeunesse parle maintenant. Non, de mon côté, j'ai commencé tôt aussi, j'ai commencé à 4 ans. Mon souvenir, c'était que mes parents m'avaient mis au piano, mais d'après ce que ma mère me dit, c'est plutôt moi qui aurais demandé à faire du piano. Je suis rentrée au conservatoire, j'ai fait un cursus classique en conservatoire. C'était pas j'hésitais parce que j'ai fait des études scientifiques en parallèle. J'hésitais entre le piano ou la biologie et arrivée au bac, je suis partie vers la musique.
Rien à voir.
Rien à voir.
Et donc à partir là, j'ai continué vraiment musique. J'ai rencontré un professeur avec qui j'ai travaillé longuement et que je travaille encore, qui m'a bien aidée à découvrir d'une manière plus globale l'instrument
donc,
et le métier.
Donc vous avez rencontré un passionné qui vous a permis de continuer. C'est-à-dire que là, si on a quelqu'un qui vous entoure et qui vous amène sur ce chemin-là, on ne le lâche pas. Ça y est, on est plongé dedans et on est...
Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je n'ai pas rencontré une personne qui m'a passionnée.
Non, elle était déjà passionnée.
Ouais, moi, j'étais déjà passionnée par la musique en général, en fait. Ça m'a toujours habitée. Depuis que j'ai ouvert la bouche, je voulais être chanteuse, quoi. C'était une évidence.
Et moi, c'était pas ça, mais moi, c'était plus j'aimais ce que je faisais parce que je n'aurais pas fait autant d'heures de piano toutes ces années...
Et quand on dit autant d'heures, c'est combien justement quand vous...
On va dire quand on commence, c'est moi ce que je dis parce que je suis professeure aujourd'hui, c'est bien de faire une demi-heure de piano par jour, quoi, parce que c'est comme un sport. En soi, à mon sens, c'est que si on veut évoluer, il faut pratiquer un peu tous les jours. Il n'y a pas de secret. Et pour après faire 1 heure, puis 2 heures, puis 4 heures, puis 10 heures, ça monte jusqu'où? Moi, je suis montée à 10 heures de piano par jour,
Et là, c'est pour effectivement interpréter donc là des œuvres déjà reconnues ou vous-même quand même, il y a des compositions.
Alors non, moi, non, au grand regret de mon grand-père, parce que j'ai retrouvé des courriers encore, des lettres qu'il m'écrivait il y a à l'époque, mais qui me disait, parce qu'il était artiste et il me disait peintre lui, et il me disait oui Edwige, la création c'est l'art.
Ah ben vous avez le temps.
Non, mais alors ça, non, c'est quelque chose que non qui m'attire pas. Je suis plus pour j'aime interpréter, j'aime jouer, interpréter, ressentir. Ça me nourrit en fait d'écouter, d'interpréter, d'accompagner, de travailler à plusieurs. C'est quelque chose qui me nourrit plus que de la création. Ça m'a jamais vraiment parlé.
Terme nourrir. Et là, comment vous justement, parce que là toutes les deux vous êtes donc assez passionnées, donc le côté émotion. Et vous disiez le concert et autres, quand vous faites donc des présentations, comment vous gérez justement cette émotion? Parce qu'il y a donc forcément d'interprétation, il y a des, j'imagine, des œuvres qui vous touchent plus que d'autres. Bien comme sûr. Vous disiez tout à l'heure, Céline, sur effectivement les langues, parfois ce n'est pas non plus ressenti de la même manière. Mais comment vous gérez cette émotion et autres? Parce que c'est fort justement, là chacune.
Ah oui.
Là, comment ça se gère ça au niveau de votre métier? Comment on doit aller sur ce chemin-là?
Je dirais que ça se travaille aussi. Ça se travaille parce qu'au début, quand on est plus jeune, on est peut-être aussi plus fragile et on découvre aussi. Donc, les émotions nous submergent très vite. La première émotion est le trac aussi. Forcément, le trac au début, on ne le gère pas du tout.
Mais ça s'apprend.
Ça s'apprend évidemment. Mais au début, on ne le gère pas. Donc du coup, j'ai passé des auditions désastreuses, des concours où le trac m'a complètement envahi et j'oubliais mes paroles, je savais plus du tout ce que je chantais. Enfin voilà, c'est des choses qu'on apprend petit à petit. Et après, les émotions, évidemment, quand on est très touché par une œuvre, des fois ça peut être le texte, des fois c'est la musique, des fois c'est les deux. Parfois, c'est difficile de le cacher. Et c'est même bien de ne pas le cacher. Parce qu'en fait, je pense que si on est ému, si on arrive à le maîtriser techniquement, évidemment, c'est mieux. Mais si ça se voit qu'on est ému, on attrape forcément le public. Le but, c'est de transmettre une émotion, de toute façon. Ouais. Et s'il ne se passe rien, le public ne ressentira rien non plus.
Mais au piano, justement. Parce que comment ça se passe, justement, de transmettre, comme vous disiez, au niveau de l'émotion? Alors, c'est vrai qu'il y a les pianistes, il y en a pas mal que j'ai
écouté. C'est une question de transmission du... Moi, je sais que par moment, pour moi, le piano, c'est une source de... Quand je joue, ça permet de s'évader, Il y a comme un travail intérieur, je pense qu'il y a quand même... Il faut avoir un travail intérieur sur son soi. Aussi, plus on travaille sur son soi, plus ça aide aussi à développer ce que l'on peut proposer, ce que l'on est et ce que l'on veut interpréter. Je le vois comme ça. Et il y a ce côté-là de... Je crois que c'est, à mon sens, c'est ce qu'on a au fond de son cœur et qu'on retransmet au bout de ses doigts.
Oui, parce qu'il y en a, ils sont au piano, un léger toucher qu'ils ont, d'autres c'est beaucoup plus appuyé.
Moi je ne suis pas pour c'est pas vraiment la gestuelle de ce que l'on voit, mais c'est vraiment ce qui ressort du son de l'instrument. On a tous un son différent, on a tous une interprétation différente, on a chacun, en fait notre âme, on va dire, est retranscrite dans ce que l'instrument va donner par rapport à ce que l'on propose. Et je pense que c'est pas une question, le superflu tout autour n'est pas utile, c'est vraiment, il faut trouver l'essentiel, à mon sens.
Il y a certaines
émotions qui se voient aussi sur le visage de l'instrumentiste. Vraiment, en fait, moi je connais très très bien Edwige, et quand on travaille ensemble, je sais que par moments, même pendant les concerts, je la regarde et je la vois, elle pleure.
Vous entendez, chers auditeurs. Non, parce que là, tous les auditeurs sont effectivement, il y a un auditeur, ah super, bravo, c'est un fan, ça y est, ils ont déjà sonné. Donc par rapport à cela, au niveau, effectivement, ils sont à Auch, ils sont à Rodez, ils sont à Cahors, donc ça, ils peuvent vous retrouver, donc à Toulouse, on verra tout à l'heure pour qu'il y ait des points de relais. Mais justement, vous êtes donc très complices de virtuoses qui se connaissent en fait depuis longtemps.
Pas tant que ça. Hein.
Ou pas.
Alors moi, j'ai l'impression de... J'ai l'impression que ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît.
Vous dites que ça ne fait pas forcément longtemps.
Non, c'est une impression, mais c'est vrai, ça fait sept ans.
Ça fait six, sept ans qu'on se connaît en fait. Donc ça fait pas tant de temps que ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis qu'on est gamine.
Et vous êtes rencontrés comment?
On s'est rencontrés à l'opéra.
À l'opéra, ouais.
On s'est rencontrés à l'opéra. Moi, je faisais, à l'époque, avant d'être soliste, pour pouvoir faire mes heures d'intermittence et pour me faire mon expérience aussi, j'ai fait ce qu'on appelle du chœur supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des chœurs fixes dans les théâtres et puis de temps en temps, ils font appel à des intermittents en extra pour qu'il y ait plus de personnes sur scène. Donc ça, c'est dans beaucoup de théâtres, ils font ça. Et donc, j'étais au théâtre à Toulouse, j'étais prise en tant que supplémentaire. J'étais
à
Toulouse et à Paris. Et donc, on s'est rencontrés à l'Opéra du Capitole.
À l'Opéra National.
Parce que du coup, Edwige, j'étais pianiste
là-bas
également.
J'étais pianiste des chœurs à ce moment-là. Et c'est là où on s'est rencontrés en fait. Ça a commencé par des petites soirées.
Voilà.
Et je bossais tellement qu'on n'avait pas le temps.
Il y avait un petit groupe là, effectivement, de la même génération. Et puis du coup, voilà, on a commencé à faire des soirées. Puis on s'est dit, mais en fait, on a plein de points communs. Enfin voilà, on s'est super bien entendus. Et puis petit à petit, une amitié s'est créée.
On s'entend fort bien.
Ouais. On se complète très très bien en plus de ça. C'est ça qui est génial, c'est que c'est pas juste. On est quand même très différentes aussi. Et on se complète du coup extrêmement bien, donc c'est au-delà d'une amitié, il y a une réelle, on part en vacances ensemble, parce qu'on peut être très amis, puis alors quand on part en vacances, c'est une cata.
Mais là, vous lâchez quand même justement vacances, parce que
on lâche,
le côté rigoureux.
Oui, on lâche. Non, il faut savoir lâcher, c'est hyper important.
Non, mais j'avais entendu.
Il y en a beaucoup qui lâchent pas, qui restent. Et non, pour en discuter avec de nombreux profs de chant et de nombreux chanteurs qui sont sur scène depuis des années, il faut savoir lâcher à un moment donné pour pouvoir mieux revenir, en fait, tout simplement.
Et puis, malgré tout, en fait, le corps, la tête, c'est pas mature, mais j'ai pas le mot exact.
D'expérience, de côté de là.
J'ai pas le mot.
Le côté professionnel, il y a deux professionnels qui se posent et à un moment donné,
il
faut...
Oui, mais malgré tout, en fait, le cerveau travaille toujours et décante, voilà, décanté.
Oh, pardon.
Très bien. Non, c'est qu'en fait, même si on fait une pause dans le travail, il y a tout... le cerveau décante tout ce qui a été emmagasiné et en fait, on revient même en... Mieux encore.
Oui, tout à fait. Il y a des choses qui ont mûri, en fait.
Ouais, on prend un step au-dessus.
Les personnes que vous avez en élèves, donc passionnées, sont de tous les âges.
Moi, j'enseigne, oui, mais alors en conservatoire. Et j'ai de tout. Hein. J'ai du petit élève qui démarre, qui a en fonction de... Ça dépend de la concentration, mais ça peut commencer à 6 ans, 6, 7 ans, jusqu'à la personne plus âgée qui va avoir... mon élève le plus âgé est 84.
Waouh,
voilà,
pas mal.
Un peu de tout.
Et là, des prodiges à 6 ans ça,
Des prodiges, je dirais que... Il y a des enfants qui ont des prédispositions. Oui, mais en fait, il y a des enfants qui ont des prédispositions où tout est facile, où ils ont une capacité d'entrer à travailler seul ça, et à avoir cette exigence d'eux-mêmes de se dire, allez, tous les jours, je me mets au piano, j'apprends.
Non, parce que c'est quand même donc, exigeant. Maintenant, dans cet univers digital, on ne va pas le refaire, mais c'est souvent intéressé par tout cet univers. Et ils vont quand même dans cette direction. C'est les parents qui les dirigent là-dessus ou comme vous deux, ben non, voilà, c'est votre passion, ça s'est mis en place de façon naturelle.
Il y a de tout. Il y a des parents qui envoient leurs enfants. Souvent, ils font de l'éveil, ils définissent après l'instrument qu'ils veulent faire. Il y a de tout. J'ai un jeune adulte là, par exemple, qui lui, en fait, joue du piano sur un tuto et qui, en fait, sur YouTube et qui, ça lui suffit plus, donc il veut apprendre autrement. Il y a vraiment de tout. Mais il y a une réelle question, moi, de, après, c'est bon, c'est côté, moi, mon côté professeur, de qu'est-ce qu'on veut pour un élève, quel est l'objectif pour nous en tant que prof d'amener l'élève d'un point A à un point B à la fin, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'il devient, comment on le souhaite pour comment on le souhaite entre guillemets. Est-ce que son l'objectif c'est juste d'en faire
un hobby,
un élève qui se dépatouille avec un peu tous les styles et qui a la technique pour, ou est-ce qu'on veut l'amener au plus loin de ce qu'on peut, comme nous on a eu la chance d'aller et d'en faire un élève qui a les capacités d'aller dans du professionnel comme de l'amateur, comme de tout.
Mais ce qui me va bien, ça veut dire que là quand vous dites YouTube, après ça peut être bien évidemment toutes les autres plateformes qu'on peut utiliser. Oui, mais ce que je trouve assez génial, c'est quand même les outils leur oui. génération, et vous arrivez à mixer, donc il y a une faculté d'adaptation là, auprès de, oui. auprès de vous, là, Edwige. Oui, mais justement, moi ça me va bien par rapport justement aux auditeurs, transmettre. Vous-même, vous transmettez, vous êtes très jeune, Edwige. Donc, vous transmettez, quoi qu'il en soit, à cette nouvelle, vous voyez, à cette génération. Mais ça veut dire que là, vous êtes complètement dans votre ère et que, du coup, vous mixez les deux. Je trouve ça
alors,
quand même assez
oui
génial.
Et non, ouais.
Avant de parler,
air,
attention de Talia, ouais. parce que là, j'y tiens.
Ouais,
après.
Je suis dans mon ère, mais je suis vieille pour ça un peu quand même, parce que là-dessus, ouais, j'avoue. Non, parce que je trouve qu'on part vers des choses qui sont où je suis pas complètement d'accord avec la façon
mais là, on peut
où
pas
on
être, veut, oui. Mais par exemple sur quoi? Sur un point et après on passe
non,
à
Talia.
Non,
mais dans l'enseignement où en fait oui. je sais c'est difficile, mais c'est le questionnement en tant que prof et en tant qu'artiste.
Oui, mais juste une remarque comme ça, c'est pas la polémique, c'est juste
non,
un
est-ce
point.
Non, mais est-ce que on apprend vraiment la musique au travers de réseaux, de plateformes, voilà, de plateformes ou de réseaux
artistiques? Non, c'est complémentaire, mais voilà. Ce côté humain que vous présentez oui. toutes les deux, quel que soit le métier, quoi qu'il en soit, est nécessaire. Enfin, pour moi, le capital humain, on ne peut pas le remplacer. Oui, oui. En revanche, les outils que vous avez évoqués, voilà, c'est des outils qui complètent pour pouvoir faire ou faciliter ou accélérer des choses. Mais la base, c'est vous deux qui le donnez, qui l'apportez.
Oui, oui.
Alors justement, ce que je trouve super dans votre projet, là, toutes les deux, donc je disais les ambassadrices tout à l'heure, ben oui, non, mais c'est une réalité, c'est que vous avez réussi avec votre passion à créer donc Talia, qui maintenant en fait est une communauté, c'est votre, je dirais, votre ambition à 5 ans, de peut-être rassembler d'autres professionnels comme vous. À ce jour dans Talia, c'est de rassembler d'autres professionnels de la voix, vous, et donc ouais. du coup de pouvoir faire des proposer... au niveau soirée privée ou dans des domaines d'ailleurs vraiment de qualité et à chaque fois franchement qui surprennent beaucoup de gens et qui sont appréciés. Donc là, comment Talia est arrivée à être créée? Je précise bien, c'est Talia The Music Is The Order.
Ouais. C'est arrivé d'un constat, mais en fait tous nos nombreux voyages, nos nombreuses discussions à vélo ou,
oui.
parce qu'on a, on s'est,
en ouais. visite de château,
voilà,
à
visite
vélo,
de château.
En rando.
Ouais. C'est une nombreuse discussion sur comment on voit la musique classique aujourd'hui, mm-hmm. parce que nous, c'est plutôt classique lyrique.
Et là, ça m'a coupé. On a fait
ah
un
non, mais non, mais
en
niveau lyrique,
fait... mais oui,
c'est votre
façon.
Émotion qui vous a coupé. Mais ouais. sur ça, par rapport à ça, l'ensemble que vous avez lancé, vous avez réussi à fédérer, vous en avez déjà fait pas mal. Est-ce que là, juste, vous pouvez au moins évoquer, déjà, c'est sur Instagram qu'on peut retrouver. Donc,
oui, on a une page Instagram, une page Facebook voilà. et un LinkedIn également.
Voilà. Et Talia, c'était H-A-L-I-A pour qu'on oui. puisse déjà vous retrouver le plus simple avec musique, comme ça, les gens retrouvent tout.
The music is
voilà.
yours.
Et donc, par rapport à ça, sur les concepts que vous avez lancés, vous avez réussi à fédérer donc du monde et surtout, est-ce que vous pouvez expliquer le concept certes, mais quelle cible vous avez réussi à fédérer? Il y a aussi la cohésion d'équipe aussi que vous essayez de mettre aussi en place par rapport à ça, de rassembler du monde, de pouvoir à ce que les gens se rencontrent, pouvoir être un peu plus dans l'échange, on va dire ça ouais. comme ça, mm-hmm. et grâce à cette musique à refaire sortir cette
L'idée,
émotion.
L'idée c'est de proposer en fait d'amener la musique classique au plus près du public, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance on a un frein souvent quand on parle, on prend dans une salle. On va prendre 10 personnes, il y a mmh. peut-être un quart qui n'a jamais franchi les pas, les portes d'un opéra, d'une salle de spectacle comme la Lougrin à Toulouse. Ou, mmh. Voilà, et donc l'idée, c'est de se dire, démocratiser ça, de le rendre plus accessible, de le mmh. rendre, de se dire qu'en fait, oui, il y a bien des jeunes, on peut avoir mmh. 18 ans, 20 ans, 30 ans, ou même un mmh. peu plus, parce qu'il y a des gens qui ont 40, 50 ans qui n'ont pas fait, même sûrement après.
Bien sûr, il y a plein.
Mais qu'en
mmh.
fait, c'est accessible, que c'est peut-être une esthétique qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, mais qui en fait, quand on fait une première démarche d'écoute, ben on se dit ah ben c'est chouette, ça nous intéresse. Donc pour de ça, on a créé donc notre agence là, et
j'apprécie, oui, c'est l'agence d'organisation d'événements musicaux classiques et lyriques,
oui.
donc
ouais.
ça c'est Talia,
voilà.
et à ce niveau-là, comment ça a été perçu, parce que malheureusement on va arriver à la fin. Comment ça a été perçu, ou du moins dans l'autre sens plutôt, comment vous voyez ça donc justement à 5 ans? là, en quelques mots, par rapport, parce que là, ça, franchement, il y a un effet de levier que vous apportez, qui est quand même magique, j'insiste, par rapport à ça. Comment vous voyez les choses? Quel est le...
Faire plein d'événements un peu partout, c'est surtout ça, en avoir plein, et proposer beaucoup de travail à beaucoup d'artistes. Parce que aujourd'hui,
la culture, la voix,
tout le monde, on fait tout.
Tout, parce que la culture se porte mal et ça ne va pas aller en s'améliorant. On le sait tous et ça, il faut quand même l'évoquer. Je tiens à l'évoquer parce que ça nous concerne tous aujourd'hui. Il y a quand même 50% de budget en moins cette année dans la culture. Et donc, ça veut dire plein d'artistes qui vont se retrouver au chômage.
Donc,
et qui ne pourront plus travailler. Et donc, je pense que de faire de l'événementiel, et donc du privé, on sera mené à faire ça aujourd'hui.
Privé ou public,
et en fait, c'est différent, c'est-à-dire notre métier sera différent. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi à nous de pouvoir s'adapter à ça et de pouvoir amener la musique dans des endroits complètement auxquels on n'aurait pas pensé en fait. Et si on peut faire travailler plein de monde et amener la musique à plein de gens différents, de milieux très différents, ben nous on est heureuses.
Donc là c'est ce qu'on fait déjà au domaine de Rombo à Rivesaltes, là dans le 66. On propose des dîners-concerts par exemple. Donc on fait toute la programmation musicale de ce domaine. Ouais. On a d'autres dates à venir au festival, le festival
de Bagnères de Bigorre.
Il y a deux dates. Et voilà, l'idée, c'est de développer, donc de proposer pour un séminaire, pour une soirée d'entreprise, pour...
du privé.
Pour du privé. Pour exemple, un défilé de mode pour une maison de couture. De proposer des prestations adaptées aux besoins du client.
Ok. Bah, écoutez, là, c'est les bons mots de fin. En tout cas, bravo, parce que franchement, vous avez le potentiel, vous avez la virtuosité pour cela. Donc là, avec grand plaisir, j'amène les personnes et tous les auditeurs, Thalia's Music is Yours, pour effectivement s'en rapprocher. Après, ça peut être effectivement, vous avez des enfants ou petits-enfants, bah écoutez, pas de problème, Edwige pourra tout à fait effectivement être le professeur adapté, Edwige Geoffroy, et Céline Labori, bah écoutez, vous pouvez effectivement venir aussi l'écouter, mais vous en rapprocher avec grand plaisir. Mais en tout cas, félicitations et je suis ravie de vous avoir accueilli.
Merci beaucoup, Sophie.
Chers auditeurs, à la semaine prochaine.